Et tu me posais la question de est-ce que la peau reflète ce qu'on mange. Moi, j'aime bien citer l'exemple très concret des carences. Tu as une carence en vitamine C, en général, tu vas avoir des rides prématurées. Parce que la vitamine C, c'est une vitamine qui joue notamment dans la synthèse du collagène. C'est un cofacteur indispensable. Ça joue aussi beaucoup sur l'éclat du teint. Donc, en général, les personnes qui consomment très peu de fruits et légumes ou qui ont une carence en vitamine C, ça se voit. Il y a un vieillissement prématuré. On va voir aussi le fer ou la B12. On va avoir un teint très terne. On peut avoir aussi une aggravation de l'acné ou de l'eczéma avec des carences en oméga-3, par exemple, ou en zinc. Donc, en fait, les carences, c'est un bon exemple pour montrer à quel point l'alimentation a un impact sur la peau.
Bienvenue chez Healthwise, le podcast présenté par Sonde Naturelle qui nourrit votre santé, votre corps et votre esprit. Je m'appelle Noémie Jobard et ensemble, on explore tous les moyens d'être ou de rester en bonne santé. Médecine, sport, nutrition ou santé mentale, autant de sujets qu'on aborde ici avec les conseils avisés d'experts au service de votre bien-être. Un épisode, une thématique. C'est parti! Près d'un Français ou Français sur deux admet être complexé par sa peau. Et près de la moitié des femmes ont déjà renoncé à poster une photo sur les réseaux sociaux à cause du regard négatif sur leur peau. Ce chiffre est issu d'une étude IFOP de 2023. Elle nous en dit beaucoup sur l'importance que nous accordons aujourd'hui à l'apparence de notre peau et sur le mal-être que peuvent générer d'autres problèmes cutanés, peau terne, sèche, acné, eczéma, taches. Les déséquilibres cutanés sont souvent vécus comme une fatalité et pourtant, notre assiette pourrait jouer un rôle clé pour améliorer l'état de notre peau en agissant de l'intérieur. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on explore en profondeur le lien entre les aliments, micronutriments et santé de la peau. Pour en parler, je reçois Camille Herman. Bonjour Camille.
Bonjour Noémie.
Bienvenue sur le plateau de Healthwise ici à Berlin.
Merci, merci de m'accueillir. Je suis ravie d'être là.
Tu es biologiste de formation et tu as passé plus de 15 ans dans l'industrie de la dermocosmétique et notamment chez L'Oréal, Nuxe, Clarins, les grandes marques. Après ça, tu t'es spécialisée en dermonutrition, donc on va en parler un peu plus en détail aujourd'hui. Et maintenant, tu es enseignante, consultante, conférencière, coach où tu accompagnes des personnes au quotidien qui souhaitent améliorer l'état de leur peau. On peut te retrouver sur les réseaux sous le nom de Veggie Glow, mais aussi en librairie avec ton nouveau livre « Transformer votre peau en 4 semaines ». Conseils, recettes, routines pour mettre KO vos problèmes de peau, c'est aux éditions Mango. Alors merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. J'ai hâte de savoir du coup comment on peut prendre soin de sa peau facilement par l'alimentation.
Je suis ravie voilà. Quand on va en parler en long, en large, en travers.
Bah, on est là pour une heure au moins, donc on va pouvoir aller vraiment en profondeur parce que je t'ai préparé plein de questions. mais la question que j'aime le plus poser, parce qu'elle est toujours un peu personnelle chez Sunday, c'est hyper important le dimanche et c'est un jour très particulier. Et du coup, je voulais savoir si tu avais une routine à toi le dimanche, une boisson, un aliment, quelque chose que tu aimes bien prendre ce jour-là pour prendre soin de toi, de te faire du bien.
Alors écoute, je vais sûrement te décevoir. Moi, je vais te parler de la vraie vie, de ma vraie vie. Je suis maman de jumeaux de 3 ans. Donc tu vois, le dimanche, en général, c'est plutôt batch cooking que me time, morning routine avec yoga au soleil.
C'est programme, préparation.
Préparation de l'alimentation pour la semaine et évidemment pour ma famille, mais aussi pour moi. Et moi, je prépare le dimanche les globards qu'on a d'ailleurs fait ensemble.
Ah oui, on va en parler sur Instagram si vous voulez nous rejoindre, voilà.
Exactement, on a fait la recette ensemble. Tu t'es d'ailleurs très bien débrouillée.
Merci.
Je prépare ces globards, tu vois, le dimanche pour toute la semaine. C'est des barres protéinées à base de protéines végétales, mais aussi de flocons d'avoine, sans gluten idéalement, ou de flocons de sarrasin. Il y a aussi de la vitamine E avec de la purée d'amande. Et c'est des barres que je consomme tous les matins à la semaine au petit déjeuner, avec en général ce que j'appelle un glowlixir, qui est un jus fait à l'extracteur. Alors je mets différents légumes, je rajoute souvent du curcuma, du jus d'orange. Mais en tout cas, de préparer ces barres le dimanche, ça me permet d'avoir le stock pour la semaine et de ne pas avoir à courir le matin.
Voilà, c'est ça. Ouais, du coup, ça permet aussi, du coup, le matin de toute la semaine, d'être un peu plus relax et d'avoir quelque chose sous la main de près, quoi.
Exactement.
Bon, c'est vrai que ça, déjà, c'est déjà un bon point pour commencer la semaine en beauté. Alors, je te disais tout à l'heure, tu es biologiste, dermonutritionniste. Comment tu en es venue à faire le lien entre nutrition et santé de la peau?
Oui, alors comme tu dis, je suis biologiste de formation et après j'ai évolué dans l'industrie sur différentes fonctions. Je voulais aussi bien comprendre les femmes qui portent leur peau, donc j'ai fait aussi du marketing, de la communication. Je suis un peu mouton à cinq pattes, mes chefs me disaient souvent ça. Et en fait, si tu veux, le lien entre la peau et l'alimentation m'est venu d'expérience personnelle. Déjà, je constatais quand je mangeais d'une certaine manière, ma peau pouvait être plus terne, même quand j'étais plus jeune. Tu vois, si par exemple, j'étais très trash food hein, quand j'étais étudiante, je mangeais des pizzas, des burgers souvent, et j'avais une peau. Elle reflétait mon alimentation, si tu
Tu
veux.
pouvais le voir dans le miroir.
Oui, j'avais des boutons, j'avais de la rosacée, j'avais des rougeurs, j'avais le visage un peu gonflé, bouffi, surtout quand je mangeais particulièrement mal la veille. Donc déjà sur moi, je commençais à avoir cette intuition assez évidente. Et après, je me suis intéressée à la nutrition, d'abord dans le cadre de mon activité sportive. Moi, je courais beaucoup. J'étais marathonienne,
Ah oui.
avec des sports assez extrêmes, tu vois, triathlon, marathon. Et j'étais obligée de m'intéresser à mon alimentation. Et par ce biais, j'ai vu aussi que quand je mangeais plus de légumes, quand je mangeais mieux, ça se voyait sur ma peau. J'avais une peau beaucoup plus éclatante. Et donc, je me suis mise à creuser les études, la science, à m'intéresser à des professionnels qui parlaient un petit peu d'alimentation pour la peau. Il y avait à l'époque, tu vois, aux États-Unis, docteur Perricone, qui faisait des régimes avec du saumon pour la peau.
Ah oui.
Il y avait quelques naturopathes qui en parlaient, mais c'était très anecdotique. Et je suis devenue complètement obsessionnelle et passionnée autour de ce lien entre peau et alimentation. Donc, je testais sur moi, je lisais des études, je testais sur des copines. Et c'est vrai qu'il y avait des résultats. Tu vois, quand on changeait certains paramètres de l'alimentation. Et après, je me suis formée, tu vois, à Harvard en nutrition, à la Sorbonne en nutrition végétale, au SINE Institute en micronutrition cutanée, donc vraiment en dermonutrition. Et j'ai donc, du coup, créé de toutes pièces cette expertise, parce que, tu vois, on dit souvent, est-ce qu'il y a des études pour devenir dermonutritionniste? Il n'y a pas d'études, en fait. Tu vois, moi, j'ai un peu
Il y a
créé mon
beaucoup
propre
de sceptiques
parcours.
même de ce que point de vue-là.
Oui, complètement. En fait, si tu veux, aujourd'hui, la nutrition, ça reste une science très récente. Donc, quand tu veux te spécialiser dans un domaine, c'est compliqué de trouver vraiment le cursus. Tu vois, t'es pas sur un cursus ingénieur en dermonutrition, ça n'existe pas. Et moi, j'ai créé un peu toute pièce cette expertise avec d'abord la passion que j'avais à travers mon métier. Je creusais aussi beaucoup dans ma profession les liens entre nutrition et peau. Tu vois, dès que j'avais un dermatologue, un scientifique sous le coude, j'y discutais avec eux. Je lisais les études, c'était vraiment mes livres de chevet. Tu vois, PubMed, c'était tous les soirs, dès qu'il y avait une
À ce
étude
point-là,
nutrition et
ouais.
peau, j'étais à fond. Et après, je me suis formée en parallèle et j'avais du mal à qualifier ce que je faisais, en fait, mon expertise. Et un jour, j'ai trouvé ce mot dermonutrition qui, en fait, reflétait bien ce que je
Ce que tu
faisais,
fais,
si tu
ouais.
veux.
Ce que tu avais déjà appris. C'est vrai que j'avais jamais encore entendu dermonutrition, ce terme-là, avant qu'on se rencontre. C'est pas bien connu. Et du coup, tu sais d'où vient ce terme? En fait, c'est juste la contraction entre dermatologique et nutrition.
Écoute, je pense que c'est un mot marketing qui a été à un moment utilisé pour justement expliquer ce que c'était de la nutrition de la peau pour beaucoup de compléments alimentaires, je pense. Tu vois, tu avais des collagènes qui disaient collagène, dermonutrition. C'était un wording un peu marketing, mais je trouvais qu'il reflétait bien ce que je voulais transmettre, qu'était le soin de la peau par l'alimentation, donc la nutrition de la peau. Et donc, je l'ai utilisé. De fil en aiguille, pardon. Je cherchais à dire quelle était mon expertise et ce que j'étais. Donc, moi, je suis biologiste cutanée de formation. Et dermonutritionniste, j'ai le droit de le dire. Alors, je suis ni médecin, ni diététicienne, je tiens souvent à le rappeler. Mon expertise, c'est d'être biologiste. Dermonutritionniste, je coach les femmes pour qu'elles aient une peau plus éclatante, pour qu'elles prennent soin de leur peau sur le long terme via l'alimentation. Et donc, dermonutritionniste me semblait être le terme adéquat pour définir ce que je faisais.
Non, en tout cas, on comprend bien. C'est assez clair aussi au niveau de l'image, parce que c'est facile pour les gens de comprendre dermo, on sait d'où ça vient, etc. La peau aussi, on comprend ce que c'est, mais toi, tu dis carrément que c'est un organe vivant qui nous protège et nous reflète. Est-ce que du coup, notre peau peut refléter ce qu'on mange? Toi, tu disais oui par le miroir, mais est-ce que ça se voit vraiment?
Oui, ça se voit. En fait, la peau, c'est beaucoup plus qu'un organe esthétique, si tu veux, parce qu'aujourd'hui, quand on pense peau, on se dit beauté, cosmétique. Ça va beaucoup plus loin. La peau, finalement, c'est le reflet de ta vie.
C'est notre bouclier.
Ça te protège des éléments, ça te protège de l'oxydation, ça te protège des UV, ça te protège aussi des autres, d'une certaine manière, parfois. Tu vois, quand on dit qu'on est mal dans sa peau, souvent on n'est pas à l'aise en société, on n'est pas à l'aise avec les autres. C'est beaucoup plus profond qu'une enveloppe esthétique et c'est vraiment le reflet de notre vie, de ce qu'on a vécu, de la manière dont on mange, de notre style de vie. C'est beaucoup plus, voilà, qu'une simple enveloppe
On porte des
cosmétique.
cicatrices, on a nos origines, vraiment, c'est vrai que la peau, elle porte notre histoire, quoi.
Exactement. Et tu me posais la question de est-ce que la peau reflète ce qu'on mange? Moi, j'aime bien citer l'exemple très concret des carences. Parce que ça parle. Tu as une carence en vitamine C, en général, tu vas avoir des rides prématurées. Parce que la vitamine C, c'est une vitamine qui joue notamment dans la synthèse du collagène. C'est un cofacteur indispensable. Ça joue aussi beaucoup sur l'éclat du teint. Donc, en général, les personnes qui consomment très peu de fruits et légumes ou qui ont une carence en vitamine C, ça se voit. Il y a un vieillissement prématuré. On va voir aussi le fer ou la B12. On va avoir un teint très terne. On peut avoir aussi une aggravation de l'acné ou de l'eczéma avec des carences en oméga-3, par exemple, ou en zinc. Donc, en fait, les carences, c'est un bon exemple pour montrer à quel point l'alimentation a un impact sur la peau.
On parlait même dans un autre épisode de la cicatrisation, aussi, quand on a des carences, du coup, on peut avoir des problèmes pour cicatriser. Je pense à ça, mais oui, c'est vrai que même quand on en parle sur Instagram, les premiers signes, ils sont visibles soit sur la peau, soit dans notre énergie, tout simplement.
Exact.
On a parlé pas mal de fois aussi du microbiote intestinal dans les derniers épisodes, mais on parle peu du microbiote cutané. Il est aussi important d'en prendre soin, non?
Oui, le microbiote cutané, c'est ce qui va contribuer à l'immunité de ta peau. Maintenant, il faut savoir, et c'est très intéressant de le relier au microbiote intestinal, en fait, microbiote cutané et microbiote intestinal communiquent. Il se passe des coups de téléphone, si tu veux. Ils échangent par le biais de métabolites. Donc c'est pour ça qu'on parle de l'axe intestin-peau. Bon, on en reparlera, moi je vais encore plus loin aujourd'hui, je parle d'axe intestin-peau-cerveau. Parce qu'en fait les trois communiquent et ça se voit sur la peau. Et donc si ton microbiote intestinal passe des coups de téléphone pas très sympas via des métabolites pas très sympas à ton microbiote cutané, ça se reflète sur la peau avec des éruptions cutanées, avec des inflammations, des rougeurs, un vieillissement prématuré. Donc clairement, c'est deux microbiotes qui communiquent. Mais c'est vrai que le microbiote cutané, tu as raison, on en parle de manière un peu plus récente, mais il faut savoir qu'il est étroitement lié au microbiote intestinal. Sur le microbiote, tu sais que la recherche, on est vraiment qu'à son tout début. On est capable de dire aujourd'hui qu'il y a un champ des possibles énorme autour du microbiote intestinal, mais aussi cutané. Il y a encore beaucoup de choses à chercher et à trouver sur ce lien entre intestin-peau et sur le microbiote.
Moi, j'avais une question qui me vient en tête là tout de suite.
Allez.
C'est surtout quand on fait des soins. Par exemple, pour la peau, des fois on dit qu'il faut faire une pause pour laisser la peau tranquille, qu'elle puisse se régénérer par elle-même. Ou on nous dit aussi de ne pas trop faire d'exfoliation pour justement avoir les bonnes bactéries qui restent sur la surface de la peau. Est-ce que ça marche comme ça?
Écoute, on dit beaucoup de choses en skincare. Ce qu'il faut retenir, c'est mettre peu de choses. Parce que si tu veux, si tu superposes beaucoup de skincare, tu as beaucoup de couches de conservateurs qui, en s'accumulant, peuvent exploser les quotas de conservateurs que ta peau peut tolérer, que ton microbiote cutané peut tolérer. Donc tu vas tuer certaines bactéries, tu vas déstabiliser son équilibre. Et qui dit microbiote cutané déstabilisé, dit peau déstabilisée, et ça se voit avec des problèmes de peau. Maintenant, les pauses, c'est comme quand on dit tu t'habitues à un cosmétique, c'est pas vrai, en fait. Réellement, ta peau s'habitue pas à un cosmétique, ta peau s'habitue pas à une pause. Elle sait très bien fonctionner, cosmétique ou pas. Les cosmétiques l'aident à bien fonctionner, à être mieux protégée, à être mieux hydratée. Moi, je pense qu'il faut juste avoir en tête que less is more. Il faut mettre très peu de produits sur le visage, bien formulé. Et that's it.
Ça, je prends note. On entend aussi parler beaucoup de soins in and out. La dermonutrition, du coup, c'est plutôt tout ce qui est in et la skincare, c'est ce qui est out, si je comprends bien.
Oui, exactement. Dermonutrition, ça va vraiment venir nourrir tes cellules en profondeur, là où elles se forment. En fait, tes cellules cutanées vont se former dans le derme. C'est là où commence la régénération de la peau. Et le derme est innervé. C'est-à-dire que ta circulation sanguine arrive jusqu'au derme. Et tes nutriments, donc, qui circulent dans cette circulation sanguine, vont arriver dans le derme. Et c'est là où, en fait, tes cellules qui vont se régénérer vont puiser ces nutriments pour former ces cellules bébés qui vont monter ensuite progressivement, qui vont repousser les cellules plus âgées qui sont à la surface de ton épiderme, et elles vont s'installer. Donc en fait, elles vont puiser, si tu veux, toute leur énergie, elles vont puiser toute leur construction dans ce derme. Donc, tu as tout intérêt à amener les bons nutriments dans ce derme.
Il faut avoir tous les outils pour ensuite faire le travail derrière de protection, là, ce que tu disais, de la peau. Et je vois ça, du coup, les nutriments comme les petits outils pour faire sa cuisine et ensuite pouvoir bien manger, bien se nourrir.
Moi, je parle souvent de voiture.
Ah, de voiture,
pour parler de dermonutrition, parce que moi, j'adore les cosmétiques. Je viens de cet univers, c'est fabuleux. Jamais je te dirais les cosmétiques ne servent à rien, c'est pas vrai, c'est utile, ça protège, ça nourrit, ça embellit, c'est un bon complément à l'alimentation. Ce que je refuse de dire et d'entendre, c'est les cosmétiques, ça sauve tout. Il faut commencer par la base, et la base c'est à l'intérieur, c'est l'alimentation, mais aussi la gestion de ton stress, le style de vie, ça on pourra en reparler, mais en tout cas l'alimentation, c'est tout simplement le carburant. Si t'as une voiture... Okay. Tu vas la peindre, tu vas choisir la protection, tu vas choisir les roues, c'est les cosmétiques. C'est super, elle va être bien entretenue, bien protégée, très belle. Mais si tu n'as pas d'essence, ta voiture ne roule pas. Et c'est là où la dermonutrition agit. La dermonutrition, c'est littéralement l'essence de ta voiture. Donc on va commencer par mettre de l'essence dans une voiture, avant de penser, si tu veux, à la protéger, à rajouter des choses à l'extérieur. Qui auront leur intérêt, mais on va commencer par l'essence à l'intérieur pour que ça fonctionne bien.
Bah, en tout cas, ça fonctionne bien au niveau de l'image, parce que maintenant, je m'imagine vraiment ma voiture, je suis là genre, oui, d'accord, je mets mon maquillage et tout ça, c'est vraiment la couleur, etc. Donc oui, c'est beaucoup plus clair, en tout cas. Quels seraient les mécanismes de base par lesquels l'alimentation influencerait la qualité de la peau? Tu parlais des carences déjà. Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes qu'on peut citer pour montrer le lien entre l'alimentation et la peau?
Il y a beaucoup de mécanismes dont je pourrais te parler. On peut revenir déjà à la notion que la circulation sanguine arrive dans le derme. Donc clairement, ce que tu vas ingérer, les nutriments vont passer, ils vont être plus ou moins bien absorbés, ils passent dans la circulation sanguine, et ensuite ça arrive jusqu'au derme. Donc déjà, c'est le premier mécanisme, savoir que les nutriments arrivent jusqu'au derme, là où tes cellules vont se former. Ça, c'est clé, parce que ça donne tout de suite conscience que ce qu'on ingère aura un impact sur la peau. Ensuite, il va y avoir la reconstruction de la peau, ou plutôt sa régénération, qui a lieu en plus ou moins 4 semaines, en moyenne. Après, ça s'allonge quand tu prends de l'âge, parce que les mécanismes ralentissent. Et ça se raccourcit dans certaines pathologies, comme le psoriasis, par exemple. Mais ça se régénère en 4 semaines. Donc en 4 semaines, si tu as bien nourri ta peau, théoriquement, tu devrais voir des premiers résultats. Après, si tu as des vrais résultats installés, il faut agir sur plusieurs cycles de 4 semaines, mais retenir qu'en moyenne, la peau se régénère en 4 semaines.
Parce que c'est la durée de vie des cellules ?
C'est le moment qu'il faut à tes cellules pour se régénérer. C'est-à-dire que tes cellules se régénèrent comme un système d'ascenseur, si tu veux. En fait, elles commencent à se fabriquer dans le derme, et après, elles vont monter, se kératiniser doucement, et repousser aussi les cellules les plus âgées qui sont à l'extérieur, prendre leur place, et voilà. Donc c'est un système d'ascenseur, si tu veux.
Ok, bah, je vois bien alors. C'est quoi les signes visibles pour montrer que la peau elle est mal nourrie? On parlait de peau terne, peut-être de boutons. Est-ce qu'il y a d'autres signes qui montrent qu'on est peut-être en manque de nutriments?
Alors la peau terne, en général, c'est le premier signe qu'on a une peau mal nourrie. Il peut y avoir des cernes très installées aussi. Les cernes étant une accumulation de déchets, en fait, finalement, qui apportent cette coloration. En général, quand on mange mal ou qu'on boit peu, c'est assez compliqué de drainer, d'éliminer les déchets qui s'accumulent dans ces cernes. Donc, quelqu'un qui est très cerné, qui a un teint terne, qui a des petits boutons, je ne parle pas forcément d'acné, mais qui a des boutons qui reviennent régulièrement, sans liens hormonaux très concrets, par exemple, une peau qui est sèche, une peau qui vieillit prématurément. Tu vois, par exemple, sur deux personnes qui ont le même âge, parfois on se dit « Ah, elle a l'air plus âgée que son âge
».
Parfois, ce n'est pas anecdotique, en fait, c'est réaliste, c'est juste que l'alimentation n'est pas bonne derrière. Il peut y avoir d'autres paramètres, mais en tout cas, ça peut jouer aussi sur le vieillissement prématuré. Donc, une peau qui a l'air plus âgée pour son âge, ça peut être aussi un signe. Les rougeurs aussi.
Et les rides?
Les rides, oui. Les rides, alors, il y a le vieillissement qui est génétique et qui est lié au temps. Mais les rides, tu peux vraiment agir dessus. En fait, il y a une notion qui a été découverte récemment par un chercheur américain qui s'appelle l'épigénétique. Tu en as entendu parler?
Oui, on en a parlé quelques fois.
En fait, l'épigénétique, c'est la capacité de ton corps à interpréter différemment tes gènes selon ce que tu fais et donc aussi selon ce que tu manges, par des phénomènes épigénétiques, notamment la méthylation. Mais si tu manges super bien, en fait, tu peux jouer sur 80% de ta génétique. C'est énorme. Donc en fait, de dire que le vieillissement cutané est une fatalité, c'est pas vraiment vrai. T'as 20% sur lequel tu peux pas trop agir, t'as 80% où tu peux agir si tu manges bien, si tu te préserves du stress, si tu dors bien, si tu fais de l'activité physique, etc., etc. Mais l'alimentation, c'est clé, et donc tu peux agir sur le vieillissement cutané, et donc sur les rides, sur la perte de fermeté, en nourrissant ta peau comme il faut, pour justement favoriser un terrain plus ferme et moins ridé.
Il y a quand même beaucoup de personnes qui mettent beaucoup d'argent dans des cosmétiques pour les rides. Est-ce que... il y a moyen de mettre moins d'argent dans les cosmétiques, mais plus dans la nutrition.
Oui, les cosmétiques, c'est fabuleux. Il y a des très bonnes formules et des très bons actifs. Tu vois, on parlait ensemble de la vitamine C, du rétinol. C'est des actifs très intéressants cosmétiques. Mais en fait, si tu n'investis pas sur la nutrition, sur ta nutrition, ça ne sert à rien, en fait, d'acheter des cosmétiques, ou très peu. Tu vas avoir des résultats qui vont être très... ponctuels, ils vont durer très peu de temps. Mais ce qui est rassurant quand tu achètes un cosmétique, et on le fait toutes, moi, la première, t'as un coup de mou ou vraiment tu te regardes le matin, tu trouves vraiment j'ai pas bonne mine. T'as envie de prendre soin de toi. Et c'est super pour ça, les cosmétiques, c'est sensoriel.
C'est un geste de routine.
Et c'est souvent le premier geste de soin de soi. Donc c'est génial. Moi, j'inciterai pas à dire achetons plus de cosmétiques. Parce qu'en fait, c'est pas, on le fera pas, c'est agréable, on aime les cosmétiques et ça a un rôle. Et ça a son rôle dans une routine. Mais si tu prends pas soin de ton alimentation, de ta micronutrition, parce qu'on en reparlera aujourd'hui, l'alimentation ne suffit pas toujours. C'est pas très utile. Donc, il vaut mieux investir davantage dans son alimentation, dans sa micronutrition, y faire vraiment attention et après réfléchir aux cosmétiques.
Surtout que l'alimentation, c'est pas que pour la peau, c'est pour son énergie, sa longévité, plein d'autres choses. Donc, c'est vrai que oui, c'est un budget utile.
Oui, en plus, c'est vrai que moi je te parle de peau parce que c'est mon terrain, mon expertise, mais au-delà de ça, pour la santé, c'est indispensable. Moi, mon spectre d'expertise est celui de la peau.
On parlait là de micronutrition. Est-ce qu'il y a des micronutriments importants pour la peau? Est-ce que tu peux nous donner quelques-uns? J'ai déjà noté vitamine C, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme micronutriments stars pour la peau?
Il y en a beaucoup. Donc, ce que je vais citer, c'est une liste non exhaustive.
Okay.
Déjà, il va y avoir évidemment les vitamines A, C, E, hyper importantes. La vitamine C, en général, c'est la reine. C'est un super antioxydant. On en a besoin pour beaucoup de métabolisme, pour beaucoup de voies métaboliques cutanées. On en a besoin pour la synthèse notamment du collagène. C'est un cofacteur. Si tu n'as pas de vitamine C, tu vas mal ou très peu synthétiser ton collagène. Donc on a besoin de vitamine C. La vitamine A, la vitamine E auront aussi un rôle très important pour lutter contre l'oxydation. Le stress oxydatif est un facteur de vieillissement cutané majeur. On va voir les minéraux. Moi, j'aime bien les appeler les Glowengers. Tu vois, moi, je suis...
Ah bon? Parce qu'ils sont trop forts, on sait quoi?
Parce qu'ils sont super forts. Le zinc, le cuivre, le magnésium vont avoir des rôles à jouer également au niveau cellulaire. Tu sais, moi, je suis un peu un bébé des années 80-90. Je suis une bonne milléniale, donc tu me verras beaucoup utiliser des exemples de cette génération. Donc, les Avengers, clairement, donc les Glowengers, tous ces minéraux-là. J'en parle un peu plus intensément dans mon livre, mais le zinc est un minéral dont on manque quasiment tous. On est quasiment tous carencés et en général, quand tu fais des analyses fonctionnelles cutanées, le zinc ressort comme l'une des carences majoritaires qu'on retrouve notamment beaucoup dans l'acné et l'eczéma. Donc le zinc, à part si tu consommes énormément de fruits de mer ou que tu es un fan de produits de la mer, on est souvent carencé en zinc.
Donc c'est pour ça. C'est vrai que ça m'avait surpris d'apprendre ça parce que magnésium, vitamine D... c'était sûr, ça je savais, mais qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient carencées en zinc, ça je le savais pas trop. Et c'est vrai qu'on sait pas trop où trouver du zinc. Il y a pas de lien hyper facile parce que vitamine C, voilà, les agrumes, etc. On sait. Vitamine D, le soleil, magnésium, chocolat, etc., même si ce n'est pas forcément bien absorbé. Mais zinc, je ne savais pas trop où est-ce qu'on peut le trouver. Et c'est vrai que je ne savais pas qu'on était souvent carencé.
Tu en as souvent dans les huîtres, dans les fruits de mer. Tu en as en faible dose dans les noix de cajou, par exemple. Mais ça reste quand même assez anecdotique. Et je ne pense pas que tout le monde se fait un plateau d'huîtres par semaine.
Non.
C'est un peu délicat de couvrir son statut en zinc. Ouais. Tu vas avoir aussi dans les micronutriments d'intérêt, évidemment, les antioxydants.
Ouais.
Hyper important, tu vois, le resveratrol, tu peux avoir aussi l'astaxanthine qui va être importante, les bêta-carotènes, le lycopène, je pourrais t'en citer beaucoup d'autres, les anthocyanes. Les antioxydants, c'est très important. Souvent, une carence en antioxydants, ça se voit clairement sur l'éclat du teint, ça c'est clair. Tu peux avoir aussi les oméga-3, hyper important. Aujourd'hui, on sous-consomme les oméga-3. On consomme des poissons gras, maquereaux, sardines par exemple, mais souvent pas en quantité.
Assez régulièrement.
Exactement. Si on est végétarien ou végétalien, les oméga-3, on y a accès sous forme précurseurs, que sont les algues dans l'huile de lin, l'huile de noix par exemple, l'huile de cameline, l'huile de colza. Mais en fait, c'est la forme, je vais pas dire inactive, mais c'est le précurseur. C'est-à-dire qu'il va être synthétisé en forme active dans ton corps, mais à raison de 5%, tu vois, de synthèse. Donc c'est très peu. Quand tu es végétarien et végétalien, les oméga-3, il faut impérativement les prendre sous forme d'huile d'algues. Qui contient la forme active EPA et DHA. Les EPA et DHA, sinon, quand tu es omnivore, tu les retrouves dans sardines, maquereaux.
Faudrait en manger combien de fois par semaine ?
J'aurais du mal à te donner une notion de quantité, mais tu vois, il faudrait 2-3 fois, je pense, par semaine
même
pour réussir à les couvrir.
C'est important.
C'est important, personne ne le fait dans la réalité. Non. À part quand on prend vraiment soin de son alimentation, qu'on suit vraiment ce qu'on mange. La plupart des gens ont besoin de se complémenter en oméga-3. Même si j'aime pas la complémentation à l'aveugle, je préfère que les gens fassent des analyses fonctionnelles. Vérifie, tu vois, vitamine D, oméga-3, vérifie avant de se supplémenter. Mais 90% de la population aurait besoin de se complémenter en oméga-3. C'est ça la réalité.
Ouais, c'est énorme. Quand on parlait tout à l'heure des antioxydants, c'est super antioxydants. Tu citais caroténoïdes, lycopènes, etc. Ça, c'est des trucs qu'on retrouve dans les fruits qui sont hyper colorés. Les fruits, les légumes, et tu disais une carence en ça, c'est la peau de terne. Donc on voit maintenant le lien des assiettes colorées avec la peau qui a bonne mine, pratiquement.
Oui, exactement. Tu penses couleur de l'arc-en-ciel, couleur sur la peau. Si tu veux, le lycopène, ça vient des fruits rouges, par exemple, ça vient de la tomate. Bêta-carotène orange, ça vient des oranges, de la carotte, de la patate douce. Anthocyane, ça vient de tout ce qui est bleu-violet, type les myrtilles. Il faut penser vraiment arc-en-ciel dans l'assiette. Couleur, parce que qui dit couleur, dit bonne mine derrière. Couleur sur les joues.
On nous disait même à la cantine, genre, mange tes carottes, t'auras bonne mine, ce genre de choses. Mais en fait, c'est tout simple, c'est les caroténoïdes dedans.
Mais c'est vrai, en fait, c'est vrai, parce que tes caroténoïdes, ils vont s'accumuler dans ton épiderme, en fait. Donc, ils vont réellement créer cette coloration cutanée, ce fond de teint, cet auto-bronzant de l'intérieur. C'est vrai. Et t'auras pas du tout un teint orange en mangeant des carottes.
Non.
Ça donne vraiment un hâle bonne mine. Moi, je dis toi, mes coachés, par exemple, manger une carotte crue par jour en bâtonnet. Et c'est vrai que les résultats sur le teint, c'est assez rapide, parfois en une semaine. Comme c'est des pigments qui s'accumulent dans la peau, t'as un résultat très rapide sur l'éclat du teint et donc sur la coloration cutanée avec les carottes, les bêta-carotènes.
Ouais, donc c'est un bon reminder pour préparer ses repas. On a parlé un petit peu de l'influence du stress et de l'inflammation dans plein d'épisodes au final de Healthwise déjà. J'imagine que ça a aussi un impact maintenant dans cet épisode sur la peau. Est-ce que tu vas me contredire ou valider au final mes dires ?
Ben non, je valide complètement. Le stress est une épidémie. Au niveau cutané, ça se reflète aussi. En fait, le cortisol, qui est cette hormone du stress, a un lien avec beaucoup de problèmes de peau. J'aime bien parler des taches, parce que les taches, c'est très visible. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de taches. Alors les taches, c'est lié aux UV, c'est lié aux hormones, on en reparlera. Un déséquilibre hormonal, c'est activé par les UV. Surtout, protégez-vous du soleil quand vous avez des taches. Protégez-vous du soleil tout court pour les rides et les taches.
Toutes les influenceuses nous le disent aussi.
Voilà. Il faut y aller sur la protection solaire. Mais au niveau des taches, on a récemment identifié qu'il y avait un lien clair avec le cortisol. Et souvent, les personnes qui ont des taches, qui font un burn-out, et je peux t'en parler parce que moi, j'ai fait un gros burn-out, tu développes en fait des taches au niveau du contour des yeux, au niveau des joues. C'est des visages qui sont très tachés. Ou en tout cas pour lesquels les taches s'amplifient. Donc le cortisol a un lien clair avec les taches, avec beaucoup d'autres problèmes de peau. Par exemple, tes crises d'eczéma, tes poussées d'eczéma ou tes poussées d'acné vont être amplifiées par des périodes de stress. Si tu es extrêmement stressé et que tu as de l'eczéma ou de l'acné, en fait, ça va générer des poussées. Donc en fait, ce lien stress et peau, il est très concret.
Et même tellement concret, parce que je crois qu'on peut même retrouver sur certaines parties du visage ou de la peau. Là, tu disais les taches sur le visage, mais même d'autres problèmes de peau, du coup, qui sont vraiment liés au stress que sur certaines parties du corps. C'est correct ?
Alors ça, j'aurais du mal à te répondre. Okay. Pour moi, c'est vraiment individuel. Après, c'est vrai que tu vois, par exemple, la rosacée, des personnes qui souffrent de rosacée. Moi, je souffre de rosacée. Tu la vois pas aujourd'hui parce que je soigne bien ma peau, je mange bien, je gère mon stress. Mais quand tu fais de la rosacée, c'est souvent au niveau des mêmes zones. Par exemple, moi, ma rosacée apparaît au niveau du contour du nez. Donc, si je suis très stressée, par exemple, ce qui a été le cas au moment où j'ai fait mon burn-out, bah, ma rosacée va réapparaître au niveau du nez, par exemple. Donc, ça dépend un petit peu de là où se localisent aussi tes problèmes de peau. Mais quand tu es stressée, ça vient aggraver et amplifier des problèmes de peau que tu as sur ton terrain cutané à toi. Et donc, ça réapparaît sur les zones, si tu veux, clés que sont les tiennes, en fait.
Et le stress? Du coup, ça fait de l'inflammation. Et l'inflammation, ça peut être de l'inflammation cutanée.
Exactement. L'inflammation chronique génère des problèmes de peau. En fait, tu vas avoir de l'inflammation, tu vas avoir une aggravation de l'acné, une aggravation de l'eczéma, des rougeurs, un teint terne, un vieillissement accéléré. En fait, tu as avec l'âge une inflammation naturelle qu'on appelle l'inflammation aging. Tu as déjà entendu ce
mot ? Oui, j'ai déjà entendu. Je l'ai lu même. Mais pas autant que... J'en ai discuté. Donc, oui, si tu peux nous dire un peu ce que ça veut dire, le inflammaging.
L'inflammaging, alors c'est un mot anglais, je ne sais pas comment on le dit en français.
Bah non, je ne saurais pas te le dire non plus.
Donc, l'inflammaging, c'est l'inflammation, si tu veux, qui se produit naturellement quand tu vieillis. C'est naturel. Maintenant, si à côté tu manges mal, que ton alimentation est inflammatoire et pas non-inflammatoire, en fait, tu vas amplifier cette inflammation. Et ce terrain inflammatoire chronique va générer un vieillissement accéléré, rides, perte de fermeté. Donc, en fait, il faut vraiment penser anti-inflammatoire au quotidien, dans l'assiette, dans ton alimentation. L'inflammation, c'est générateur d'un vieillissement accéléré.
Ok, c'est plus clair pour moi. Est-ce que tu aurais d'autres éléments qui pourraient jouer sur l'inflammation ?
Oui, alors on parlait des oméga-3 tout à l'heure. Aujourd'hui, on sous-consomme les oméga-3 et on surconsomme les oméga-6. Les oméga-3 sont anti-inflammatoires, les oméga-6 sont inflammatoires. On a besoin d'une balance, alors on parle d'un ratio à égalité, ou alors 3-1, 3 oméga-6 pour 1 oméga-3. Comme on surconsomme les oméga-6 inflammatoires, en fait, on favorise une inflammation chronique dans le corps. Maintenant, l'inflammation, ce n'est pas que négatif. On a besoin d'un équilibre entre inflammation et anti-inflammation, parce que l'inflammation, c'est ce qui permet aussi de te défendre contre des agresseurs. Donc, c'est important d'avoir quand même de l'inflammation. Mais il faut que cette inflammation soit pondérée, équilibrée. Et comme on sous-consomme les oméga-3, notamment parmi d'autres éléments, on favorise ce terrain inflammatoire chronique.
Maintenant, les oméga-3, on disait qu'on les retrouvait dans les petits poissons gras. Les oméga-6, du coup, c'est plutôt des produits transformés, des produits gras. C'est où est-ce qu'on les retrouve pour justement essayer de rééquilibrer la balance?
Oui, les oméga-6, c'est le symbole, en fait, des produits transformés. Parce que ça va être les huiles de tournesol, les huiles de soja, par exemple, qu'on retrouve partout, qui sont très utilisées parce que très économiques. En général, par exemple, tes charcuteries ou alors tes biscuits apéritifs, ils trempent, en fait, dans ces huiles-là. Tous les produits transformés, en général, utilisent ces huiles qu'on appelle huiles oméga-6. Typiquement, l'huile de tournesol, il faut arrêter de l'utiliser. C'est une huile oméga-6. Et donc, comme on surconsomme les produits transformés aujourd'hui, dans notre alimentation moderne, qu'on appelle la Western Diet, et ben en fait, on est surexposé aux oméga-6.
Du coup, il faut vraiment faire attention à ces produits-là et plus consommer des petits poissons ou avoir une supplémentation adéquate, quoi.
Exactement, des produits bruts, les petits poissons gras. Attention au thon et au saumon, parce que tu vois, par exemple, aujourd'hui, c'est ce qu'on consomme majoritairement en poissons gras. Ils sont très pollués. Et si on en consomme davantage, en fait, on va être exposé à ces polluants. Qui dit polluant dit inflammation également.
Donc, on ramène un autre problème sur la table. Donc, OK, il faut faire attention. Est-ce qu'il y a d'autres aliments qu'il vaut mieux éviter ou limiter si on a des problèmes de peau?
Oui, il y a pas mal d'aliments à éviter. Maintenant, avant de t'en parler, il y a quand même un concept sur lequel je voudrais revenir, que tu connais peut-être, qui est cette notion du 80-20.
Non, je ne connais pas. juste pour l'épigénétique, quoi.
Alors, non, pour autre chose, pour l'alimentation. En fait, il s'agit de bien manger 80% du temps, et 20% du temps, on peut se relaxer. Parce qu'on vit quand même dans un monde moderne, social, un petit verre de vin de temps en temps, un petit produit transformé de temps en temps, une pâtisserie de temps en temps, ça tuera personne et ça tuera la peau de personne. Et c'est important d'avoir, tu vois, ce côté aussi relaxant pour soi, pour les autres, parce que si tu es dans l'orthorexie, que 100% du temps, tu veux bien manger à tout prix, en fait, en charge mentale, c'est terrible.
Donc, et en stress, au final.
Exactement. Donc, il n'y a pas d'aliments, si tu veux, à bannir absolument. Il y a des aliments, c'est vrai, à limiter. Le numéro 1, je suis sûre que tu le connais.
Pour moi, c'est charcuterie.
Le sucre.
Le sucre.
Le sucre avant tout. Vraiment, le sucre. Il y en a partout. Tes yaourts aux fruits, tes charcuteries, partout. Tes boîtes de conserve. En fait, le sucre est caché. Et c'est ça le sujet. C'est pas juste qu'on rajoute tous du sucre blanc dans ce qu'on mange.
Non.
C'est que c'est caché partout. Et qu'on a aussi un goût très sucré qui s'est développé. Donc, le sucre, il y en a partout. Le sucre.
Et on en demande.
Et on en demande. En fait, le cerveau. Je ne sais pas si on peut encore parler d'addiction au sucre, mais en tout cas, le cerveau aime le sucre. Il y a ce fameux bliss point, tu sais, qui est cet équilibre entre le sucre, le gras, qui amène du plaisir, en fait, qui a été identifié scientifiquement. Donc le sucre appelle le sucre. Quand on mange du sucre, on a envie d'encore plus de sucre. Et le sucre, en fait, génère de la glycation. La glycation, c'est un sucre qui va se fixer sur des protéines, notamment ton collagène et ton élastine, qui sont ces fibres qui garantissent ton rebond cutané, qui vont maintenir ce matelas cutané de bébé qu'on a envie de garder, se fixent sur les protéines collagène, élastine, rigidification, dégradation de ces fibres, et donc tu perds en fermeté, tu creuses des rides. Le sucre, c'est vraiment le premier aliment à modérer dans son alimentation.
Donc le sucre avant le gras.
Le gras, c'est bien. Il faut choisir les bons gras. On limite les produits trans, les gras trans, ça c'est clair. On va plutôt vers des gras oméga-3, vers des bons gras végétaux. Un peu de gras animaux, quand même, c'est important. Tu vois, par exemple, quand tu prends du beurre cru, du ghee, c'est intéressant. Tu vas retrouver des nutriments, des vitamines qui sont intéressants. Mais on va en majorité sur des gras végétaux. Tranquille sur l'huile de coco, qui était très à la mode à un moment donné. C'est bon, l'huile de coco, c'est intéressant. Mais c'est un acide gras, enfin, c'est saturé. Donc on badigeonne pas tous ces plats d'huile de coco, parce qu'à un moment, tout le monde était à l'huile de coco et avait abandonné tous les autres gras. Après, il faut pas non plus, tu vois, choisir un gras et bannir les autres. Par exemple, aujourd'hui, exactement, tout le monde pense santé, va vers l'huile d'olive. Et cuisine à tout va l'huile d'olive, il n'y a aucune autre huile dans la cuisine. L'huile d'olive, c'est passionnant pour les polyphénols, qui sont des superbes antioxydants, mais ça ne contient pas d'oméga-3. Et comme on a besoin de consommer plus d'oméga-3, c'est bien d'avoir par exemple une huile d'olive à la maison, mais aussi une huile de colza qui contient des oméga-3 ou de l'huile de noix. Varier en tout cas ces huiles végétales, ça c'est important. On a parlé du sucre, mais tu me disais aussi les produits laitiers. Ça c'est clair qu'il faut les réduire sur la peau. Il y a des corrélations qui ont été faites de manière très claire. On sait que les produits laitiers sont délétères, notamment en cas d'eczéma, en cas d'acné également. En fait, les produits laitiers vont booster tes IGF-1. Parce que ça génère. En fait, produits laitiers, il va y avoir du lactose, qui est un sucre, d'autres éléments.
Caséine.
Il va y avoir des pics d'insuline. Le sucre aussi, ceci dit, génère des pics d'insuline. Mais dans les produits laitiers, tu as d'autres éléments qui vont générer de l'inflammation. Booste les IGF-1, qui sont des facteurs de croissance, et ça va générer de l'inflammation, ça va générer des poussées de boutons, ça va générer de la sébogénèse accélérée, amplifiée. Cette bactérie C. acnes, notamment si tu as de l'acné, qui est cette bactérie responsable de l'acné, qu'on a sur la peau, qui est une bactérie qui, lorsqu'elle est équilibrée, c'est OK pour ta peau. Mais quand elle est surexprimée, quand elle est super contente d'être là parce que tu as une peau super inflammée, ben, en fait, elle génère de l'acné.
Et tous les produits laitiers.
Comment te répondre ?
Il y a encore une hiérarchie ou pas ?
Oui, il y a une hiérarchie. En fait, les produits laitiers, il faut vraiment les minimiser. Tu vois, un produit laitier par jour, c'est OK, voire deux. Si t'as pas d'eczéma et d'acné, parce que dans certains cas d'eczéma et d'acné, ça peut être intéressant de carrément les supprimer de ton alimentation. En veillant bien à aller chercher ton calcium, tes protéines ailleurs. Mais il y en a ailleurs, de toute façon. Donc, en fait, t'es pas obligé de manger des produits laitiers.
C'est pas trop dur d'alterner avec autre chose.
Non, t'en as ailleurs. En fait, de dire que t'es obligé de manger des produits laitiers, c'est pas vrai. Maintenant, si tu aimes les produits laitiers, ou que t'es végétarien, parce que c'est intéressant aussi pour les sources de protéines, il vaut mieux aller vers du brebis ou du chèvre, parce que c'est moins inflammatoire.
Toi, t'es végétarienne, du coup ? C'était par rapport à la peau ou par rapport à d'autres choses, des valeurs ou... C'est juste une question personnelle à côté.
Écoute, non, moi je suis végétarienne initialement pour des raisons éthiques. En fait, au moment du Covid, j'ai eu une espèce, comme tout le monde, j'étais extrêmement choquée. Et
choquée de quoi, du coup ?
Parce qu'il s'était passé, ça me paraissait tellement dingue, cette pandémie, si tu veux. Et je pense, comme tout le monde, j'ai vu ce reportage sur Netflix, The Game Changer, et j'ai réalisé que l'élevage industriel, notamment, participait à 15% des émissions de gaz à effet de serre. J'étais gênée aussi par la condition animale, par l'abattage animal, et en fait, de manière réactionnelle, la première chose que j'ai faite pendant le Covid, c'était de devenir végétarienne, même végétalienne au début, pour tout te dire. Et je me sentais bien, en fait, en limitant ma consommation de produits animaux. Je me sentais bien comme ça, en fait, éthiquement parlant. Et en plus de ça, comme j'ai augmenté du coup ma consommation de produits végétaux, J'ai augmenté mes quantités d'antioxydants, de fibres, et en fait, j'ai vu des résultats sur ma peau qui étaient absolument dingues. Et globalement, du coup, je me sentais beaucoup mieux comme ça, et je suis restée végétarienne. Aujourd'hui, je suis toujours végétarienne, et je me sens très bien en tant que végétarienne. Mais je ne te dis pas que si j'avais été omnivore et que j'avais mieux calibré mon alimentation, choisi des produits de meilleure qualité, choisi plus de végétaux, peut-être que j'aurais les mêmes résultats. Maintenant, cette histoire et la mienne, elle est celle-ci. Et aujourd'hui, je ne changerai pas d'alimentation, en tout cas à l'instant T, parce que je suis très bien en étant végétarienne. Mais c'est pas si simple d'être végétarienne équilibrée, sans exploser tes quotas de glucides, en étant équilibrée en termes d'oméga-3, en ayant des apports en fer suffisants et surtout bien absorbés, parce que le fer végétal non héminique est moins bien absorbé que le fer héminique. Donc, quand tu es végétarien, il faut être extrêmement bien accompagné, renseigné. Moi, je me suis carrément formée à la Sorbonne. Tu sais, j'ai passé un diplôme universitaire en alimentation végétarienne à l'école de médecine de la Sorbonne. C'est pas si simple. Donc, j'incite pas tout le monde à devenir végétarien et végétalien. C'est pas la solution santé, c'est pas la solution peau. Ce qui est sûr, c'est que c'est une alimentation qui est intéressante parce qu'elle est bourrée d'antioxydants. Et en tout cas, moi, à titre personnel, elle me convient parfaitement.
Et c'est surtout, tu es devenue consciente de ce que tu mangeais et même, tu vois, tu cites aussi le fer, etc. Tu te rends compte bah, comment je dois faire pour faire des belles assiettes, des assiettes qui vont ne pas être problématiques pour moi si j'enlève la viande, quoi.
Oui, exactement. J'ai conscientisé davantage mon alimentation. Et d'ailleurs, c'est drôle que tu en parles parce qu'au début, en tant que végétarienne, j'ai fait énormément d'erreurs. Je remplaçais pas les protéines. En fait, je me mettais à manger que des pâtes ou du riz. Donc, je me retrouvais avec des assiettes hyper glucidiques. Je faisais pas attention à combiner vitamine C et fer non héminique pour en booster l'absorption. Je faisais pas attention non plus à aller chercher les bonnes protéines végétales. J'étais que sur des légumineuses qui sont quand même glucidiques. Il faut alterner avec les œufs, le tofu, par exemple, qui ont un index glycémique plus faible. Donc, il s'agissait aussi de varier. Mais voilà, au début, j'ai fait plein d'erreurs. Je ne me supplémentais pas en oméga-3, EPA, DHA d'algues. On peut faire des erreurs facilement.
Est-ce qu'on peut aussi faire un petit jeu? J'ai
Oui!
préparé un petit jeu.
Jouons!
Voilà. Le but, c'est que je te propose un aliment ou un ingrédient et tu me dis s'il faut le privilégier. Et donc, tu me dis glow. Ou plutôt, s'il faut l'éviter, tu me dis trash.
Je te dis glow ou trash, mais tu te souviens du 80-20. Il n'y a rien qui est vraiment
Voilà.
trash.
C'est plutôt alors à mettre sur le côté.
Exactement. Trash, ok de temps en temps.
Et on le regarde du coin de l'œil.
Exact.
Bon, je pense que le premier, je vais pouvoir même répondre moi-même, le sucre raffiné.
Super trash.
Super trash. Bon, là,
Glycation.
par contre, oui, on peut mettre vraiment à la poubelle. Poisson gras.
Eh bien, je pourrais te répondre glow. Donc, je vais te répondre glow pour maquereau, sardine, truite arc-en-ciel, par exemple. Mais pour le thon et le saumon, j'ai pas envie de te répondre glow parce qu'aujourd'hui, ils sont quand même très pollués. Donc, j'ai envie de te dire
Un peu
un
sur
peu
le
glow
côté.
trash. Ça te va ou pas comme
Glow
réponse?
trash, ça me va. Produits laitiers industriels.
Quand tu dis industriel, ça veut dire avec des additifs, type, moi, quand tu me dis produits laitiers industriels, je pense yaourt aux fruits.
Ouais, avec les faux fruits
Franchement,
dedans.
trash. Il vaut mieux, tu vois, de prendre un yaourt nature bio et rajouter, tu vois,
Ce
quelques
que
fruits
tu veux
dedans,
dedans, ouais.
un peu de stevia. Mais en fait, ces yaourts industriels aux fruits contiennent un nombre de carrés de sucre industriel, je crois que 5 ou 6,
Ah ouais?
et que ça grossit avec les années. Il faut arrêter ces yaourts aux fruits industriels.
Ok.
Trash.
Par contre, d'autres fruits, les baies, les myrtilles, les framboises.
Super glow.
Super glow.
Super glow, c'est plein d'antioxydants, notamment les anthocyanes dont je te parlais, qui sont issus de ces fruits bleus, violets. Et en plus, c'est assez faible en indice glycémique. Par exemple, on dit que si tu aimes bien le cétogène, qui est une alimentation qui vise justement à faire travailler un petit peu ton corps pour qu'il produise des corps cétoniques, très faible en glucides, ce qui est intéressant de temps en temps. Il y a des experts qui en parlent très bien d'ailleurs. Mais c'est assez faible en indice glycémique. Les fruits, il faut être modéré sur les fruits. Aujourd'hui, on a tendance à dire fruits santé, on en mange 10 par jour. Non, c'est beaucoup trop. Il y a du fructose dans les fruits qui est un sucre, certain. Bon sucre, même si je mets entre guillemets, il n'y a pas de bon ou de mauvais sucre, il y a des sucres en quantité modérée. En tout cas, c'est un meilleur sucre. Mais un ou deux fruits par jour, c'est suffisant. Et les fruits rouges ont un index glycémique assez bas, donc ça ne surstimule pas l'insuline, donc c'est très intéressant.
Donc deux fruits et trois légumes. Parce que si on suit les cinq fruits et légumes par jour, du coup, ce serait ça.
Beaucoup plus de légumes, trois, c'est insuffisant. Beaucoup plus. Mais en tout cas,
Ah,
pas plus de deux fruits.
ok. L'alcool.
Trash, trash parce que l'alcool, c'est un toxique. L'alcool, c'est une toxine. Ton corps a du mal à comprendre comment l'éliminer. Dès que tu absorbes de l'alcool, ton corps cherche à dire waouh, ciao, ciao les toxiques. Tu vois, ouais.
Il n'y a pas du resveratrol dans le vin.
Non, parce qu'en fait, le resveratrol, c'est un peu un mythe. En fait, si tu prends un verre de vin, tu as trop peu de resveratrol pour avoir l'effet antioxydant attendu. Okay. Il faut se complémenter en resveratrol. En revanche, c'est sympa parce que l'alcool, c'est social, parce que c'est festif. Mmh. Un verre de vin de temps en temps, pourquoi pas, tous les jours, trash. Donc, glow pour l'esprit, de temps en temps, un mariage, un événement, une soirée, pourquoi pas. Mais l'alcool, c'est pas un élément intéressant pour la peau et l'organisme. Cool. Non, mais il faut pas s'interdire un petit verre de vin, une coupe de champagne de temps en temps. C'est sympa.
Ensuite, j'ai l'huile d'olive extra vierge.
Hyper glow, c'est hyper bourré glow. De polyphénol.
Mais faut pas la cuisiner à haute température.
Non, alors l'huile d'olive, tu peux la cuisiner à température douce. L'idéal de toute façon avec les huiles végétales, c'est quand même de l'utiliser à froid sur des crudités par exemple, parce que tu préserves un maximum de nutriments dedans. Maintenant, l'huile d'olive se cuisine bien à température douce.
Ensuite, j'ai la charcuterie.
Super trash. S'il y a bien un aliment qu'il faut abandonner, c'est la charcuterie. C'est beaucoup trop salé. Qui dit excès de sodium dit aussi aggravation des cas d'eczéma, et ça a été prouvé par des études. Trop salé aussi, rétention d'eau. Donc tu vas paraître avec un visage un peu bouffi, avec. Ça se voit quoi sur les traits. Y a aussi beaucoup d'oméga 6 dans la charcuterie, il y a beaucoup d'additifs, de nitrites. Enfin bref, charcuterie, il faut abandonner. S'il y a bien un aliment qu'il faut abandonner, c'est charcuterie. Désolé du coup pour les barbecues d'été.
Ah oui.
Pourquoi pas une fois dans l'été, mais pitié les charcuteries. Il y a en plus, tu vois, avec les grillades. En fait, tu vas avoir des AGE qui vont se former, donc tes Advanced Glycation Element, je ne sais plus quel est l'acronyme exactement derrière, mais c'est des produits de glycation avancés, on dit en français. Et qui dit produit de glycation avancé avec la grillade, dit grillade cutanée, glycation, rides, perte de fermeté.
Ok, donc à mettre vraiment de côté.
Oui, c'est
l'avocat.
Écoute, l'avocat, c'est un bon aliment, ça contient des bons lipides, c'est hyper intéressant l'avocat, notamment si tu fais des phases cétogènes, comme je disais, pour réduire un petit peu ta quantité de glucides, de sucre et donc de pics d'insuline. Maintenant, l'avocat, faut pas le surconsommer pour des raisons aussi éthiques. On sait qu'aujourd'hui, c'est pas un aliment très écologique, et mon cœur et mon âme de végétarienne, pour des raisons éthiques et écologiques, te diront l'avocat, c'est bien de temps en temps, mais pas tout le temps.
Ouais, donc pas avocat de tous tous les matins, quoi.
Glow pour la peau, pas hyper glow pour l'environnement.
Ok. Ensuite, j'ai le curcuma.
Oh, super glow, le curcuma, c'est un de mes bijoux. J'en parle dans mon livre. C'est vraiment hyper intéressant. C'est un anti-inflammatoire et antioxydant de pointe. Moi, je préconise souvent de le prendre, tu vois, en moulu, un peu tous les jours dans tes plats. Okay. Le curcuma moulu contient 2 à 5% de curcuminoïdes, qui est ce qui nous intéresse. En fait, les curcuminoïdes, dont la curcumine, c'est le principe actif du curcuma. C'est un peu comme je te dis, dans un cosmétique, il y a des actifs, et ben la curcumine, les curcuminoïdes, c'est le principe actif du curcuma. On en a assez peu dans le curcuma moulu, et c'est très peu absorbé. Donc il va falloir combiner ça avec des sources de gras, donc cuisiner le curcuma avec un plat gras, et un petit peu de poivre noir, pas trop, on ne charge pas non plus en poivre noir, parce que ça peut créer des trous dans la muqueuse, donc on y va tranquille sur le poivre noir. Et on se fait des cures de temps en temps, en cure. Attention, c'est important, en cure, 2 à 3 fois dans l'année, par exemple, 2 à 3 cures de 2 mois, de curcuma en complément alimentaire, parce que là, on va avoir une concentration plus importante de curcuminoïdes. On est, tu vois, selon les compléments, alors tu me diras avec Sunday, mais en général, c'est entre 20 et 50% de curcuminoïdes, ce qui va augmenter, en fait, cette capacité à être exposé aux curcuminoïdes, donc à mieux absorber. Comme on sait que c'est très mal absorbé, c'est bien de faire des cures. Mais attention, des cures, pas en continu.
Ouais, ok. Ensuite, j'ai les amandes et les noix.
Hyper glow, les amandes et les noix. C'est plein de vitamine E, donc antioxydants. Ouais. Après, ce qui est beurre de cacahuète, il faut quand même un petit peu réduire parce qu'il y a des oméga 6 dedans en quantité assez importante. Donc, ok, le beurre de cacahuète de temps en temps et les cacahuètes, mais pas non plus trop. Sinon, les amandes, hyper intéressantes. Les noix du Brésil, c'est bien d'en consommer 1 à 3 par jour pour couvrir tes besoins en sélénium, qui est un antioxydant important pour la peau aussi. Donc, hyper glow.
Ensuite, j'ai le thé vert.
Le thé vert, hyper glow. Pour les EGCG, en fait, qui sont des super antioxydants, hyper puissants. Par contre, thé, café à distance des repas, c'est indispensable. En fait, aujourd'hui, on prend son petit déjeuner qu'un thé ou un café, il faudrait arrêter et consommer plutôt son thé ou son café quand on arrive au bureau le matin, tu vois, 1 heure après. Parce qu'en fait, dans le thé et dans le café, tu vas avoir des polyphénols hyper intéressants, mais qui vont se greffer à certains minéraux, notamment le zinc, le fer, le calcium, et ce qui va faire que ces minéraux vont être pas, peu absorbés, mal absorbés. Mmh. Et notamment, tu as des personnes, par exemple, qui arrivent avec leur thermos de thé qu'elles goulottent toute la journée, qui vont avoir des anémies ou des carences en fer qui vont se développer à cause de ça. Donc, thé et café, c'est merveilleux, ça contient des polyphénols, mais à distance des repas.
Ok, donc pas de café gourmand.
Il vaut mieux éviter, en tout cas de temps en temps, pourquoi pas, on revient aux 80-20, mais éviter en tout cas proximité des repas.
Ensuite, dans ton livre, tu as du coup ce programme de 4 semaines qui passe par l'alimentation équilibrée, nutritive, des routines, style de vie. Pourquoi tu dis que c'est en 4 semaines? C'est par rapport aux cellules qu'on parlait tout à l'heure?
Oui, c'est en 4 semaines, parce qu'en 4 semaines, tu peux voir des premiers résultats, du fait qu'il faut 4 semaines à une peau pour se régénérer. Maintenant, en général, il faut plus longtemps pour voir des résultats vraiment installés. Mmh. Les antioxydants, c'est pas comme une crème que tu mets sur le visage et hop, ils sont là. En fait, il faut que ça s'accumule dans les tissus. Donc quand tu manges bien, et en fait, ces antioxydants qui s'accumulent vont à terme créer cette protection oxydative dont ta peau a besoin. Donc il s'agit de manger bien sur le long terme pour avoir assez d'antioxydants qui s'accumulent, si tu veux, au sein de tes tissus, dont la peau. Mmh. Donc 4 semaines, c'est bien pour un premier résultat, mais c'est bien de prolonger. Et surtout, c'est bien manger toute sa vie.
Mmh. On parlait aussi de prévention, donc c'est bien de manger bien toute sa vie aussi pour prévenir les rides, prévenir d'autres problèmes de santé, pour pouvoir un peu mettre en pratique tes conseils. En tout cas, tu donnes vraiment beaucoup de conseils. J'aimerais juste qu'on se focus sur une journée glow-friendly du réveil au sommeil. Est-ce que tu peux nous faire un peu, qu'est-ce qu'on fait au petit déjeuner, le matin, le midi, au travail, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de sa peau? En tout cas, faire en sorte qu'on ne lui fasse pas du mal.
Alors, je peux donner une journée type, par exemple, que moi, je réalise. Le matin, je mange donc ces glow-bars qu'on a fait ensemble, en recette, filmées, qu'on va retrouver bientôt, j'espère, sur le compte. C'est des glow-bars à base donc, de flocons d'avoine. Tu vas avoir des bons lipides, avec le beurre d'amande riche en vitamine E, des protéines véganes, donc végétales, qui vont être intéressantes. Les protéines, on les oublie souvent le matin. Tu vois, dans le petit déjeuner français, c'est tartines, confitures. C'est hyper important, les protéines, dès le matin, pour la satiété, mais aussi pour l'énergie, pour construire la peau de l'intérieur. Les protéines, c'est comme les briques, si tu veux, on en a besoin. Donc, je fais ces glow-bars avec un glow-lixir qu'on trouve aussi dans mon livre, qui est à base d'orange, de carottes, de curcuma. Parfois, je rajoute autre chose. Tu vois, je rajoute aussi parfois des légumes verts, des concombres, du céleri. Mmh. Donc, je le tune un peu selon les matins. Donc, ça, c'est ce que je prends le matin, avec évidemment mes compléments alimentaires. Moi, j'en prends tous les jours. Mmh. Je suis un peu biaisée également par mon métier, mais j'en prends beaucoup. Et ensuite, au déjeuner et dîner, il s'agit de faire ce que j'appelle une assiette peau. C'est un acronyme que j'ai imaginé, parce qu'aujourd'hui, on entend partout, il faut bien manger pour sa peau, il faut bien manger pour sa peau. Mais ce n'est pas très concret. Mmh. Concrètement, comment tu manges? Eh bien, il s'agit de constituer des assiettes peau. Acronyme PEAU, donc P pour protéines. Il te faut une bonne source de protéines qui sont donc tes briques de construction cutanée, de ton collagène, de ton élastine. E pour l'eau. Alors l'eau, il faut en boire selon de la journée 1,5 à 2 litres, mais pensez à l'eau. Parfois, tu as des personnes qui ne boivent pas, donc pensez à ajouter un verre d'eau à table ou des légumes riches en eau. Exactement. Ou des légumes riches en eau comme des concombres ou de la pastèque, par exemple, à l'assiette. A pour acide gras oméga 3. Le A de l'acronyme PO, c'est acide gras oméga 3 parce que oméga 3 et oméga 6 et 9 sont intéressants, mais comme on sous-consomme les oméga 3, c'est un petit rappel pour se dire « Ah, est-ce qu'aujourd'hui à l'assiette j'ai une source d'oméga 3 ?» Végétal, animal, mais est-ce qu'il y a des oméga 3? Et comme ça, dans toutes tes assiettes, quand tu as un peu d'oméga 3, tu arrives à couvrir tes besoins et donc avoir cette balance oméga 3, oméga 6 équilibrée. Et enfin, le U de peau, c'est ultra coloré pour les antioxydants, pour cette palette de fruits et légumes multicolores qu'on veut à l'assiette. On veut vraiment un arc-en-ciel dans l'assiette pour couvrir un maximum d'antioxydants différents et avoir l'armée la plus solide possible d'antioxydants. Donc tu vois, par exemple, je te donne des idées d'assiettes. Moi, l'été, j'aime bien, par exemple, des carpaccio multicolores avec, par exemple, des tranches de betterave, des tranches de tomates jaunes, avec un peu de myrtille dessus, des concombres. Je rajoute ça. Alors moi, je suis végétarienne, mais tu peux mettre des macros sur un petit pain sans gluten ou un pain de sarrasin, par exemple. Moi, j'ai utilisé des pois chiches ou du tofu, par exemple, que je vais faire brouiller. C'est un exemple. Tu peux avoir aussi, en hiver, une petite soupe, par exemple, de patates douces accompagnée de haricots verts avec, si t'es pas végétarien, ça peut être une bonne source de protéines animales, un petit peu de viande blanche, par exemple. Ne pas oublier de rajouter de l'huile de colza pour les oméga-3, ou alors de prendre ton complément, ou alors, en tout cas, des poissons gras, il faut les penser régulièrement à l'assiette. C'est quelques exemples que je t'ai donnés et on essaye d'éviter de snacker ou de goûter, de grignoter. En fait, on a besoin de phases de récupération digestive. Il faut imaginer ton corps un peu comme une usine. À un moment, il faut qu'elle se nettoie. Et si tu n'as pas des moments de pause digestive, ton corps n'a pas le temps de se nettoyer. Et donc, en fait, tu es constamment en effort digestif. Accumulation de toxines, ça se voit. Tu vas avoir des teints brouillés derrière. Donc moi, je conseille d'éviter de prendre un goûter, à part si on meurt de faim et que vraiment on ne peut pas s'en passer. Il vaut mieux éviter de goûter et de grignoter.
Ou de goûter plutôt salé.
Oui, ou goûter plutôt salé. Et tes cellules, par ailleurs, ont besoin de se renouveler. C'est ce qu'on appelle l'autophagie cellulaire. Mmh. En fait, elle va se débarrasser de ces toxines, des métabolites ou des éléments qui ne fonctionnent plus en son sein. Et si tu n'as pas des phases de pause digestive, voire de jeûne, ce qui peut être intéressant pendant certaines périodes, ou de jeûne intermittent pour ceux qui le pratiquent, elle n'a pas le temps de se mettre en autophagie et donc d'éliminer ses déchets. Le camion poubelle, si tu veux, cellulaire, n'a pas le temps de rouler.
J'aimerais qu'on passe sur les problèmes de peau, et qui sont très communs et parfois compliqués aussi à s'en occuper. Est-ce que tu pourrais, pour chaque problème de peau, nous donner un conseil, un micronutriment, un actif à privilégier, un aliment à introduire, peu importe, un petit mot, en tout cas, sur chaque problème de peau, très rapidement.
Donc non exhaustif à chaque fois.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment juste le premier truc qui te passe par la tête.
Allez.
Eczéma.
Eczéma, oméga 3.
Acné.
Zinc.
Rougeur,
alcool. Faire attention à sa consommation alcoolique.
C'est pour ça le nez rouge, exact. Par exemple. Tache brune,
antioxydant.
Psoriasis,
oméga 3 aussi.
Les rides.
Sucre.
Il est de retour.
J'aurais pu dire collagène aussi.
Ouais. Bouton.
Zinc.
Peau grasse,
c'est un petit peu plus compliqué de te répondre. Là, je passe sur plutôt du out. Je dirais ne pas surlaver, pas d'excès d'hygiène avec les peaux grasses. Ça sert à rien de décaper une peau grasse.
Ok. Peau sèche, par contre.
Peau sèche, je dirais onagre bourrache, qui contiennent des GLA, qui sont un type d'acide gras qu'on trouve difficilement dans l'alimentation. Peau sèche, s'il y a un complément à prendre, c'est onagre bourrache.
Ok. Perte de fermeté.
Collagène.
Ah oui. Ça, on n'en a pas encore parlé. On va peut-être pouvoir en parler après. Ensuite, j'ai peau terne.
Vitamine C. Antioxydants.
Rosacée.
Oméga 3. Ils reviennent beaucoup, ces oméga 3. Oui, parce que comme... En fait, eczéma, rosacée, acné, ça évolue sur des terrains inflammatoires. Et l'inflammation est aussi beaucoup liée à ce déséquilibre oméga 6, oméga 3.
Ensuite, les cernes.
Eau, boire.
Boire.
Allez, bois un petit coup pour les cernes.
Et le dernier, c'est les poches.
Les poches, c'est souvent assez génétique. C'est lié aussi à la forme du visage, mais sinon boire aussi. Parfois, c'est lié à une accumulation aussi de toxines, à un mauvais drainage, donc boire aussi beaucoup.
Par exemple, j'ai eu beaucoup de poches au moment de mes allergies.
Et d'accord.
Ouais, l'inflammation aussi, ça peut jouer.
Exact.
En fait, il nous reste encore un peu de temps. Je voulais que tu me dises un petit peu plus ce que tu penses du collagène. Parce que ici à Sunday, là, on en a quelques-uns. On a du collagène, mais que du collagène végétarien. Mmh. Et là, du coup, tu l'avais cité pour la peau sèche.
Oui. La peau avec des rides et perte de fermeté.
Ouais.
Écoute, le collagène, c'est un vaste débat parmi les scientifiques. Je te pose à plat le contexte. Le collagène, aujourd'hui, il y a énormément d'études autour du collagène. Certes, réalisées par par les entreprises qui commercialisent le collagène en tant que complément alimentaire. Mais sinon, qui d'autre, j'ai envie de te dire. C'est des études extrêmement coûteuses, il faut bien les réaliser. Ouais. Il y a suffisamment d'études et d'analyses qui prouvent, en tout cas qui soulignent un lien positif entre amélioration de la qualité de la peau, diminution des rides, amélioration de la fermeté et prise de collagène. À partir du moment où c'est un bon collagène bien formulé. Maintenant, le mécanisme d'efficacité du collagène est mal compris, mal connu, mal identifié. Il se trouve, en tout cas l'hypothèse qui est posée, c'est que quand tu ingères du collagène, tu envoies un signal à tes fibroblastes, qui sont donc tes cellules qui synthétisent le collagène, pour leur dire « Allez les gars, je suis là, synthétisez ». Ce serait plutôt un signal, si tu veux. Mais le collagène que tu ingères ne vient pas, hop là, se faxer dans la peau, tel que tu pourrais l'imaginer un petit peu intuitivement. Il y a un signal qui est envoyé. Et en plus de ça, comme tu ingères un bon mélange d'acides aminés, dont a besoin ton collagène, eh bien en plus, il a le pool dont il a besoin pour bien synthétiser. Maintenant, ton corps a du collagène au niveau des tendons, à différents endroits du corps, et c'est lui qui va choisir où il met ton collagène. Après, si tu ingères du collagène de type 1, type 5, de différents types, on aura tendance à dire qu'il y en a qui sont plus pour la peau, plus pour les tendons, c'est vrai. Mais en tout cas, il y a plutôt un système de signal, et tu as des scientifiques qui ne croient pas au collagène parce qu'ils n'arrivent pas à expliquer ce mécanisme.
Et est-ce qu'on peut voir une différence entre les collagènes aussi? Parce qu'il y a du collagène de peptide de collagène, il y a du collagène de végétarien, du collagène marin, bovin. On ne sait pas trop lequel prendre.
Alors, tu as du collagène animal, donc issu du bœuf ou du poisson, bovin et marin. Marin n'étant pas du collagène d'algues. Parce que parfois, on pense que le marin est végétarien ou végétalien, pas du tout.
C'est du poisson.
C'est du poisson. Et tu as du collagène végétarien, que j'ai découvert d'ailleurs avec vous, qui est issu de la membrane de coquille d'œuf, ce qui est assez dingue. Tu as du collagène vegan, attention, le collagène végétal n'existe pas. On ne le trouve que dans l'animal. Donc, bovin, poisson, membrane de coquille d'œuf. Ce qu'on appelle le collagène vegan, c'est plutôt du booster de collagène végétal.
C'est cofacteur.
C'est un mélange d'acides aminés dont a besoin ton collagène. Donc, c'est les bons acides aminés. Et en plus, tu peux avoir la vitamine C qui est un cofacteur. Donc, moi, je n'ai pas envie de dire qu'il y a un bien, un moins bien. En fait, ils ont tous des résultats supporté par des études, à partir du moment où on est sur un bon produit, encore une fois, bien formulé. Mais c'est surtout de quoi tu as envie. Tu vois, par exemple, moi, je suis végétarienne. Alors, il m'est arrivé de consommer en petit écart des collagènes animaux avant de découvrir les collagènes végétariens et végétaliens. Mais si tu es végétarien ou végétalien, tu n'auras pas envie de prendre du collagène animal. Donc, tu iras plutôt vers de l'ovoderme ou tu iras plutôt vers du procollagène végétal. Par contre, si tu n'as pas de problème avec le collagène animal, va vers du bovin ou du marin. Maintenant, il n'y a pas de plus ou moins efficace. L'important, c'est de prendre ce qui supporte ton collagène.
Est-ce qu'on peut faire une dernière question?
Oui.
Est-ce que tu aurais une ou deux histoires de personnes que peut-être tu as coachées, par exemple, ou que tu as rencontrées, qui ont transformé leur peau grâce à la dermonutrition?
Oui, alors je ne vais pas citer leur nom, évidemment, c'est confidentiel, mais j'ai une maman que j'ai accompagnée, qui avait, tu vois, 35 ans, qui s'était complètement oubliée, en fait, avec la maternité, ce qui est très fréquent. Les femmes, souvent, quand elles ont des enfants, elles se dépriorisent. Et un jour, elle s'est réveillée, elle me disait dans la glace, je ne me reconnais pas. J'ai l'impression que j'ai pris 10 ans, je ne me reconnais pas, ce n'est pas moi. Elle en souffrait beaucoup, et elle s'est dit, il faut que je me remette au centre aussi de moi, de mon assiette. Et je l'ai accompagnée, et sur la fermeté, les rides, sur l'éclat du teint, c'était incroyable, les résultats qu'elle a obtenus, juste en changeant son alimentation. Elle mettait juste de l'huile de noisette sur le visage. Elle mettait quasiment rien. Mais vraiment, elle a changé profondément son alimentation. Elle s'est supplémentée avec les bons nutriments. Et en fait, elle s'est retrouvée. Et je me souviens qu'elle est venue me voir. Elle m'a dit un jour, je me suis retrouvée en tant que femme. Je ne suis plus juste la mère. Elle était juste rentrée dans son rôle de mère. Ouais. Elle dit, aujourd'hui, je suis redevenue la femme.
Elle s'était mise de côté, quoi.
Complètement. Ouais. Et j'ai trouvé ce terme fabuleux. Un jour, elle est revenue. Elle pleurait, c'était très émouvant. Elle me dit, je me suis retrouvée en tant que femme. Et ça a été fort.
Oui, du coup, il faut vraiment se mettre au centre et prendre soin de soi. Vraiment, ça passe par des petits gestes, l'assiette, la crème, le temps pour soi, le miroir aussi.
Et je vais te dire quelque chose, même s'il y a des mamans qui nous écoutent. Même moi, je suis maman de jumeaux de 3 ans. Et j'ai compris qu'en me mettant au centre... Je ne dis pas en mettant plus de... mes enfants sont la priorité de ma vie, je les aime plus que tout. Mais en prenant soin de moi et en choisissant de me mettre au centre de ma vie, avec mes enfants, j'étais une meilleure maman.
Ouais.
Et à partir du moment où moi, je prends moins soin de moi, ça se voit, en fait, je suis une moins bonne maman.
Tu es plus disponible, plus à l'écoute, plus énergique pour passer plus de temps avec eux, par exemple, aussi.
Oui, exactement. Les mamans, prenez soin de vous, vous prendrez encore mieux soin de vos enfants.
En tout cas, c'est un beau message. Je te remercie vraiment beaucoup pour tous ces conseils et de nous avoir permis de nous plonger vraiment dans le sujet de la dermonutrition que je ne connaissais pas du tout. Vous qui nous écoutez, si vous voulez aller plus loin, il ne reste plus qu'à lire le livre de Camille, Transformer votre peau en 4 semaines aux éditions Mango. On peut aussi te retrouver du coup sur les réseaux sociaux. On pourra aussi nous revoir ensemble en faisant une des recettes du livre.
Et oui.
On se retrouve sinon très bientôt pour un nouvel épisode de Healthwise. À bientôt.
Merci Noémie.
Petite question bonus avant que tu partes. C'est quoi les compléments alimentaires que toi tu prends personnellement?
Je prends beaucoup de compléments alimentaires.
Ok.
Mais c'est parce que je suis aussi un peu biaisée par mon métier. Je ne dis pas qu'il faut en prendre autant.
T'inquiète, il y a beaucoup de gens aussi qui viennent sur le plateau qui disent qu'ils en prennent beaucoup. La liste est longue.
Alors, premièrement, moi, je prends de la B12.
Okay.
Ça, c'est clair. Parce que je suis végétarienne. Je consomme très peu de produits animaux. Des œufs tous les jours, ça, c'est sûr. Quelques produits laitiers, mais assez peu. Donc, B12 tous les jours. Ça, okay. C'est clair. Ensuite, oméga-3, vegan, avec des EPA et des DHA. Parce que comme je te disais tout à l'heure, il n'y a pas de forme active des oméga-3 dans les végétaux. Mm-hmm. Ça, c'est important. Et après, collagène. Donc, collagène, booster de collagène vegan. Ou alors, j'ai découvert avec vous le collagène végétarien à base d'œuf. Ça, c'est mm-hmm. clair. Et je fais régulièrement des cures de resveratrol, d'astaxanthine, qui sont des antioxydants, de zinc, le curcuma aussi, en cure régulièrement. Mm-hmm. Est-ce que j'en oublie un? J'ai carrément pris des notes pour être sûr de ne pas oublier. Je fais des cures de détox aussi, ça j'y crois beaucoup. Il faut détoxifier régulièrement sa peau, surtout que moi, tu sais, j'ai fait tester mon génotype et mon génome, mes gènes ont montré que j'avais une capacité à détoxifier un petit peu plus faible
okay.
que la moyenne. Donc, mes gènes détoxifiants ne sont pas top. Donc il faut que je mange beaucoup, par exemple, de crucifères, de sulforaphane pour aider mon corps à détoxifier. Mais en parallèle, de temps en temps, un peu de détox avec les bonnes plantes, c'est intéressant. Donc moi, j'utilise des hydrolats ou du jus de bouleau, par exemple. En ce moment, préparateur solaire,
okay.
important, pour aider sa peau justement à se protéger contre les UV. Alors, ça n'empêche pas de mettre un chapeau. Moi, tu me vois dans la rue, je suis avec un chapeau tout l'été.
On se baladait même à Berlin avec le chapeau.
Voilà, chapeau tous les jours. En été, quand je sors, je ne mets pas mon manteau, je mets mon chapeau. Crème solaire tous les jours, mais à côté, je prépare ma peau avec des préparateurs solaires. Ça va être en général des complexes brevetés, tu vas avoir des bêta-carotènes, mais ce qui permet de vraiment aider ta peau à mieux se protéger contre les UV. Tout en apportant une petite coloration, souvent assez sympa sur la peau. Est-ce que j'en oublie? Chlorophylle, jus d'herbe de temps en temps, quand je suis dans cette phase justement un peu détoxifiante, où je veux aider mon corps à mieux détoxifier, j'en prends, parce que c'est fabuleux pour capter aussi les métaux lourds. Est-ce que j'oublie quelque chose? Prébiotiques.
Ah oui.
Hyper important. Aujourd'hui, on fonce tous sur les probiotiques, mais c'est comme si t'achetais un chien et que t'achetais pas les croquettes. Les probiotiques, c'est l'animal, les prébiotiques, c'est les croquettes. Donc, si tu veux, il faut des prébiotiques. Moi, je fais régulièrement des cures. Tu en trouves dans l'alimentation, dans l'ail, l'oignon, la banane, par exemple, mais on n'en consomme pas assez. Donc, je fais des cures de temps en temps. Acide hyaluronique.
Ah oui.
Et là, je peux citer le vôtre que j'ai découvert. Acide hyaluronique liposomal.
Ah, pas là, mais oui.
Fabuleux. L'acide hyaluronique, c'est une molécule, on n'en a pas parlé, c'est une molécule éponge qui va choper l'eau et l'aider, si tu veux, à bien pénétrer dans ta peau. C'est vraiment la molécule de l'hydratation clé en skincare, mais aussi en alimentation. Donc moi, je consomme de l'acide hyaluronique liposomal de chez vous. C'est un bijou.
Ok, bah, merci en tout cas pour cette petite liste où on pourra peut-être prendre quelques idées.
Merci. Avec plaisir.
Bye bye.